France Inter.
Et c'est le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Sportifs et organisateurs des JO, ils ont 100 jours pour être au niveau. Nouvelle étape ce matin du compte à rebours, cette fois ça devient concret. Les acteurs des Jeux sont-ils prêts? Revue d'effectifs dans ce journal. Nous serons aussi dans le désert du Negev, sud d'Israël. C'est là que samedi soir a été recensée la seule blessée grave de l'attaque iranienne. Une fillette d'un village bédouin arabe, l'envoyé spécial d'Inter a retrouver sa famille très en colère. Dans ce journal aussi, le Conseil des ministres qui planche sur la trajectoire des finances publiques, le rachat d'actions dans le viseur du gouvernement. Est-ce la fin des lèvres charnues et des pommettes gonflées? Les adeptes de médecine esthétique veulent plus de naturel. Et puis la qualification presque surprise du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Prochain rendez-vous contre Dortmund dans 15 jours. Et à 8h20, Nicolas.
Ah oui, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Notre invité tout à l'heure.
Un immense écrivain. Il publie le livre événement de ce printemps, Le Couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat chez Gallimard, où il raconte l'attaque au couteau qu'il a subi il y a 2 ans et qu'il a laissé partiellement aveugle. Un livre sidérant de puissance sur la mort, le fanatisme religieux, mais aussi sur l'amour. Salman Rushdie est invité en exclusivité de France Inter à 8h20.
A tout de suite.
France Inter.
Qu'ils soient sportifs français ou étrangers, les Jeux de Paris, les Jeux à Paris, ce sera forcément pour eux particulier.
C'est une chance unique hein, de faire ces Jeux. Enfin, ça se reproduira plus jamais, en tout cas pas dans ma carrière, ça c'est sûr.
C'est très important, évidemment. Je parle de priorité, de préparation pour arriver aux Jeux olympiques avec mon niveau maximum, mais j'espère pour faire bien.
Paris is beautiful.
Et puis bien sûr, Paris est magnifique. Je ne sais pas si j'ai déjà été dans une ville si magique.
Vous aurez peut-être reconnu dans l'ordre la vététiste tricolore Pauline Fernand-Prévot, la star du tennis Novak Djokovic et le perchiste suédois Armand Duplantis. Tous donc focalisés sur un objectif dans 100 jours, pile le début des JO. Le compte à rebours franchit ce matin une étape majeure pour les athlètes comme les organisateurs. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Notre madame JO, est-ce qu'on est prêt, Emma? D'abord sur un plan purement sportif, où en sont les Français?
Eh bien le ticket pour les JO, la première étape est déjà dans la poche de pas mal de nos grandes stars. Teddy Riner en judo, Estelle Mosley en boxe. Pour Léon Marchand en natation, ça devrait être une formalité. En revanche, il y a plus d'inquiétude pour le décathlonien Kevin Mayer qui n'a toujours pas réalisé les minima. Alors pour ceux qui seront à Paris, l'objectif a été rappelé par Emmanuel Macron. Top 5 du classement des médailles, bien mieux que la 8e place de Tokyo. Si l'on en croit les dernières prédictions de l'Institut Grace Note, basées sur les titres et podiums dans les grandes compétitions récentes, eh bien la France est plutôt bien partie. Avec 28 médailles d'or, elle serait 3e de ce classement.
Et pour le reste alors, les infrastructures, elles sont à peu près livrées. Paris se transforme à vue d'œil, les premiers stades éphémères sortent de terre. Mais des inquiétudes demeurent, Emma, pour la sécurité et puis pour les transports aussi.
Ah, ça reste le gros point d'inquiétude, hein, même si le comité d'organisation répète que chaque site a désormais son plan de transport pour chaque jour et chaque épreuve. Il n'en reste pas moins que la livraison de la ligne 14 et de son prolongement jusqu'à Orly au sud et aux abords du Stade de France au nord devrait se faire in extremis. Et puis, les doutes subsistent hein, sur la résistance du réseau actuel à une fréquentation qui est certes comparable à un jour d'hiver ouvré, mais qui va connaître des pics soudains à l'entrée, à la sortie des épreuves. Et ça, on n'est pas habitué, même si la RATP assure avoir suffisamment recruté, suffisamment anticipé les congés. Quand le ministre des Transports incite à sortir le vélo et que la présidente de la région Île-de-France rappelle que la marche, c'est bon pour la santé, le message est finalement plutôt clair.
Merci Emma Sarango. Et un rendez-vous ce matin, 10h. 250 000 places supplémentaires vont être mises en vente, quasiment les dernières, pour toutes les disciplines olympiques. Pas de tirage au sort cette fois, c'est la règle du premier arrivé, premier servi.
Il est 8h04 et ce matin, on est encore très loin de la trêve olympique, Alexis, en particulier au Proche-Orient.
Où malgré les appels au calme, les déclarations belliqueuses s'enchaînent entre Israël et l'Iran. L'État hébreu assure que la République islamique ne sortira pas indemne de son offensive du week-end dernier. Téhéran menace dans ce cas-là d'une nouvelle réponse sévère et douloureuse. Samedi soir, si la quasi-totalité des missiles et drones iraniens ont été interceptés, quelques éclats sont retombés, notamment sur l'un des villages bédouins arabes du désert du Negev, localité non reconnue par Israël. Une fillette a été gravement blessée. Notre envoyé spécial, Ajra Mohamed, a pu retrouver sa famille, très amère aujourd'hui.
Le père d'Amina, Mohamed Hassouna, et l'un de ses fils nous emmènent voir l'énorme trou dans le toit en tôle de leur maison.
C'est rentré par là.
Elle a eu très peur des missiles.
Elle était debout ici, elle a été touchée à la tête et elle est tombée.
La fillette de 7 ans est toujours hospitalisée en soins intensifs, inconsciente. Quant à ses 13 frères et sœurs, ils restent traumatisés par cette nuit où le ciel semblait exploser au-dessus de leur tête.
Les enfants ont peur de revenir, ils ont peur des missiles. On n'a pas d'abri où aller, c'est soit la voiture, soit la maison. Et si je veux en construire un, c'est interdit, ils le détruiront.
Dans le Negev, de nombreux villages sont ainsi privés d'abris anti-bombes, privés de sécurité, rappelle Majel El Awashla, coordinateur d'une association de défense de Bédouins.
Les autorités affirment que ce terrain n'appartient à aucune juridiction, seulement à l'État d'Israël. Mais nous étions là avant lui, et regardez où nous vivons. Nous n'avons aucun service. Pas d'abri, pas de réseau d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure.
Un sentiment d'injustice aussi pour Mohamed Hassouna. Depuis samedi dernier, aucun représentant officiel de l'État n'est venu le voir, déplore-t-il. Les militaires sont bien passés chez lui, oui, mais seulement pour récupérer les débris des missiles et drones tombés au sol.
Le reportage d'Ajra Mohamed avec Sandrine Malon et Alexandra Vardy. La tension s'accroît encore entre la France et l'Azerbaïdjan. Paris rappelle son ambassadrice en poste à Bakou pour consultation et dénonce les actions unilatérales de l'Azerbaïdjan, dommageables pour la relation entre les deux pays. Elles sont exécrables, ces relations, depuis l'éclatement du dernier conflit territorial au Haut-Karabakh. Comment éviter le décrochage de l'industrie européenne face à la Chine et aux États-Unis ? C'est la question à l'ordre du jour du sommet des 27 aujourd'hui à Bruxelles. L'idée est notamment de soutenir davantage la transition écologique. L'écologie au cœur d'un débat hier soir à Angers entre les principaux candidats aux élections européennes, les têtes de liste en tout cas, à l'initiative de Jean-Marc Jancovici et son groupe de réflexion, le Shift Project. Laurence Perron, chacun s'est positionné sur le pacte vert européen qui prévoit la réduction de notre empreinte carbone d'au moins 55% d'ici à 2030.
Un débat très courtois qui s'est toutefois un peu emballé sur la question du financement de la transition écologique. Manon Aubry, tête de liste LFI.
Pardon Madame Hayet, mais c'est assez culotté d'annoncer des coupes budgétaires, moins d'un milliard d'euros dans ma prime rénov qui sert à faire la rénovation thermique des logements.
Réponse de la candidate macroniste.
Et moi ce que je trouve culotté Manon Aubry, à part Marie Toussaint, je dois le dire, personne ici n'a soutenu le plan de relance. Moi je suis d'accord pour qu'on aille taxer les ultra-riches. Non, c'est pas nouveau. Laissez-moi terminer Raphaël Glucksmann s'il vous plaît, je suis tout à fait d'accord pour qu'on aille taxer les ultra-riches. Sauf que je voudrais bien que les ultra-riches, ils restent en Europe.
Sourire moqueur de la figure de proue des socialistes, Raphaël Glucksmann, qui énonce sa solution.
Un emprunt à l'échelle européenne. Ce que nous avons fait face à la pandémie, nous devons pouvoir le faire face à la perspective de l'effondrement climatique.
Pour le RN Jean-Philippe Tanguy, la Banque Centrale Européenne doit être mise à contribution.
Après la crise de la Grèce et des dettes souveraines, la Banque Centrale Européenne a imprimé plus de 3 000 milliards d'euros pour sauver les marchés financiers. Proposons une deuxième phase pour financer cette transition.
Aux antipodes, enfin, l'écologiste Marie Toussaint, qui chiffre à 260 milliards par an pour la France le coût de l'inaction climatique, quand le LR François-Xavier Bellamy estime que l'Europe, qui n'est responsable que de 7% des émissions mondiales, va finir par mettre son économie à terre sans pour autant sauver la planète.
Et vous l'entendiez, les principales têtes de liste ont répondu présentes, à l'exception du RN Jordan Bardella, remplacé par le député Jean-Philippe Tanguy. Et c'est en pleine campagne des européennes que l'exécutif se prépare de douloureux choix budgétaires. Le programme de stabilité, c'est-à-dire la trajectoire des finances publiques jusqu'en 2027, est présenté ce matin au Conseil des ministres, avec un objectif, revenir à un déficit inférieur à 3% du PIB. On était à 5,5 l'an dernier. Et si le gouvernement refuse toute hausse des impôts, il lorgne tout de même sur le portefeuille boursier des plus fortunés, notamment ceux qui bénéficient de rachats d'actions. Fabien Cazot pour les explications.
Lorsqu'une entreprise veut faire monter son cours de bourse, elle peut procéder au rachat de ses propres actions sur les marchés. Faisant ainsi artificiellement augmenter la demande pour ses titres, elle en fait augmenter le cours. La manœuvre de plus en plus répandue parmi les géants du CAC 40 permet notamment de mieux rémunérer les actionnaires sans avoir à leur verser de dividendes supplémentaires et de les fidéliser, réduisant ainsi les risques de prise de contrôle par des entreprises concurrentes. Le problème aux yeux de l'État, c'est que l'argent utilisé pour racheter des actions sur les marchés n'est pas pas investi dans l'activité des entreprises. Il est en quelque sorte déconnecté de l'économie réelle, devenant un outil purement financier, alors que l'État, justement, fait des efforts avec notamment son plan France 2030 pour investir en faveur de nombreux secteurs industriels. Reste à savoir combien rapporterait dans les faits une taxation des rachats d'actions, pratique finalement limitée aux très grandes entreprises. Sans doute pas des milliards, estiment sceptiques les économistes qui ont travaillé sur le sujet.
Et à l'issue du Conseil des ministres, c'est elle, tout à l'heure, qui, comme chaque mercredi, en fera le compte-rendu. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, fragilisée après la démission de 3 membres de son cabinet, selon nos confrères de France Info, dont son directeur de cabinet, Prisca Thévenot, qui avait notamment été très critiquée pour l'annonce erronée d'une tentative déjouée lors du week-end de Pâques. Un jeune homme de 22 ans, grièvement blessé lundi soir à Bourges, dans le Cher, après un refus d'obtempérer à scooter. Son pronostic vital est engagé. Une enquête est ouverte pour y voir plus clair sur l'intervention des policiers municipaux qui voulaient contrôler ceux de rouge. C'est l'un des plus grands squats de France. Évacuation en cours depuis quelques minutes d'une entreprise désaffectée de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. 450 sans-abri y avaient trouvé refuge. Pour la plupart des migrants en situation régulière, selon les associations. Nous serons en direct sur place dans le journal de 9h. On en vient à cette affaire aujourd'hui devant la cour d'appel de Besançon. Affaire qui illustre la difficulté pour la justice de traiter certaines plaintes pour viol. Une jeune femme de 19 ans, Lilou, conteste le non-lieu rendu en février dernier en faveur de son grand-père, qu'elle accuse donc de faits remontant à ses 12 ans. À ce stade, il n'y a pas de procès prévu donc, mais pour le procureur, en l'absence de preuves, le principe de présomption d'innocence prévaut. Ce que ne comprend pas Lilou, vous avez pu la joindre, Delphine Evenou.
En septembre 2020, Lilou, 15 ans, franchit la porte du commissariat de Besançon soutenue par son petit ami et ses parents. Elle raconte 4 viols et des agressions sexuelles qu'elle a subies de son grand-père l'été de ses 12 ans.
À 12 ans, j'avais vraiment aucune notion de tout ce que c'était qu'avoir des rapports sexuels. Enfin, j'avais jamais eu de copain avant. Puis c'est après, au fur et à mesure du temps, en grandissant, que là, j'ai compris que ce qu'il m'avait fait, c'était pas acceptable.
L'adolescente est entendue 4 fois, dont 2 en confrontation. Le grand-père nie, soutenu par une partie de la famille qui dénonce une manipulation sur fond de conflit. Il y a 2 mois, la justice ferme la porte à un procès en ordonnant un non-lieu.
C'est comme si il était reconnu comme innocent de ce qu'il avait fait. Ils disent que c'est pas qu'ils me croient pas, c'est qu'ils ont pas d'éléments. Donc pour moi, ça peut pas s'arrêter là en fait.
Car Lilou et ses avocats estiment que l'enquête a été bâclée.
Pour moi, j'ai l'impression qu'ils veulent classer l'affaire le plus rapidement possible en se basant sur le fait que c'est parole contre parole.
Selon les derniers chiffres de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste, seuls 3% de ces affaires sont renvoyées devant la justice. Contactez l'avocat du grand-père de Lilou estime que la médiatisation de cette affaire est une honte. Sans donner plus de détails, Lilou, elle, a décidé de se lancer dans des études de droit.
Un choix radical pour la santé publique au Royaume-Uni. Les députés adoptent en première lecture une loi pour interdire totalement et définitivement la vente de cigarettes à partir de la génération 2009. Donc les Britanniques âgés aujourd'hui de 15 ans. L'idée est d'en faire la première génération sans tabac, même si le parcours législatif est encore long. Faut-il y voir un moment de bascule pour la médecine esthétique? Les injections à tout va ne sont plus si tendance. Des stars comme Cameron Diaz ou Courtney Cox font machine arrière, des influenceuses aussi, et certains praticiens Océane Zitouni confirment ce retour progressif à des visages plus naturels, moins botoxés.
Naomi Baker est une influenceuse qui compte plus d'un million d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Pendant 2 ans, elle se fait injecter de l'acide hyaluronique dans les lèvres pour les faire gonfler. En décembre, elle retire tout et partage son expérience dans une vidéo qui totalise plus de 7 millions de vues.
C'était pour le but de faire de la prévention, mais sous le ton humoristique, surtout pour les jeunes. Ça faisait vraiment bimbo, style télé-réalité dans les années 2000. En fait, on aurait dit un canard de profil. Voilà, je me reconnaissais plus. Psychologiquement, ça n'allait pas. J'ai voulu vraiment retirer cette petite erreur que je me suis faite dans la bouche.
Des patients comme Naomi qui font machine arrière, Bernard Ayot en reçoit de plus en plus dans son cabinet de chirurgien esthétique parisien. L'acide hyaluronique est un produit qui vieillit mal, constate-t-il.
On se rend compte que l'acide hyaluronique à forte dose vieillit plutôt que de rajeunir. Les patients vont voir leur médecin esthétique tous les 6 mois. Ils rajoutent de l'acide. Ils se comportent comme une éponge, il gonfle. Donc on voit très bien quand une patiente est un peu gonflée d'acide hyaluronique, qu'elle sourit, on a l'impression qu'il y a deux fesses qui montent et qui lui ferment l'œil.
Pour ne plus avoir ces effets disgracieux, les médecins et chirurgiens peuvent dissoudre ces injections grâce à une substance, la hyaluronidase, qui n'est pas sans risque.
Hyaluronidase n'est pas anodine parce qu'il y a un risque d'allergie, voire de choc anaphylactique, même si c'est un cas sur 10 000 ou 20 000.
Chaque jour, 2 à 3 patientes au minimum viennent chez ce chirurgien pour retrouver un visage plus naturel.
Océane Zitouni.
Il est 8h15. En 2017, les Parisiens avaient appris, malgré eux, un mot d'espagnol.
Oui, la remontada. Eh bien, 7 ans plus tard, les Barcelonais vont devoir le traduire en français. Car au pied du mur, hier soir, le PSG a réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Victoire 4-1 en match retour des quarts. De quoi effacer la défaite du match aller. Paris file donc en demi, où il affrontera les Allemands de Dortmund. Comme un air de déjà-vu, Xavier Monferrand.
Noch einmal, encore une fois, à croire que le PSG et Dortmund sont inséparables cette saison. Les deux étaient dans le même groupe au début de l'aventure et ce n'était pas une partie de plaisir, comme le rappelle Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du PSG.
Souvenez-vous, on était dans le groupe de la mort, Dortmund, Newcastle, Milan et le PSG. Et nous, on a fini derrière Dortmund. Encore un match compliqué à venir de haut niveau face à une équipe qui joue bien. Ce sera très difficile, mais on a du temps pour le préparer.
Le coup près n'était pas passé loin. Si à l'aller, le PSG l'avait emporté. Au retour, en Allemagne, il avait arraché un match nul et la qualification avec. Mais pour les supporters parisiens, pas de doute, Dortmund, c'est à la portée du PSG.
Moi, je suis confiant. Franchement, on a tout pour aller en finale. Il n'y a pas d'excuse. C'est cette année, c'est la bonne, j'espère.
Il y a une revanche à prendre sur eux, vraiment. Donc, j'espère vraiment que nos joueurs vont prendre la mesure et bien manger, bien dormir. Le fait d'avoir le retour au parc, franchement, une demi-finale retour au parc, c'est incroyable.
Et face à Dortmund, le PSG va tout de même vivre sa 3e demi-finale de Ligue des champions en seulement 5 ans.
Et cette demi-finale, elle est prévue soit le 30 avril, soit le lendemain, 1er mai.
Merci Alexis Morel. Lui sera sur la scène du Grand Rex à Paris ce soir pour un nouveau projet musical. Le trompettiste Ibrahim Malouf est l'invité de Léa Salamé. À 9h20, la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Marie-Pierre Planchon, toujours de l'air polaire qui descend de la mer du Nord.
Oui, vous connaissez le dicton, avril ne te, etc. Et cette masse d'air accompagnée d'un bon vent de nord provoque de l'instabilité, des averses plus marquées du nord-est. Aux Alpes, au Massif central, aux Pyrénées, avec de la neige à partir de 800 mètres des Vosges, au Savoie, à l'Auvergne, 1500 sur le relief pyrénéen, alors que du nord à l'Île-de-France, à la Bretagne, en descendant vers la Gironde, la matinée sera plus ensoleillée. Mais près de la Manche, une averse n'est jamais loin, alors qu'autour de la Méditerranée, ce sera pas mal à ensoleiller, avec un vent qui a bien baissé d'un cran, avec quelques averses en Corse encore, c'est descendu à 0 à la messe dans les Ardennes.
Et peu d'évolution dans l'après-midi.
Si ce n'est des orages et du grésil attendu du nord-est à la Bourgogne, de la neige sur tous les reliefs, avec un peu plus d'averses de l'Île-de-France au Pays de la Loire. Et la chute continuera cet après-midi. Vous n'aurez pas plus de 6 à la Tour d'Auvergne, pas plus de 9 à Semur en Aixois, 12 à Paris et à Bourges, 15 à Albi et Orange, 19 à 7 en se rappelant qu'avril fait la fleur, mais en a l'honneur.
Oh, c'est magnifique, merci. Merci Marie-Pierre. 8h18. Oh.